Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Louis Jacquot, cofondateur des Cuistots Migrateurs. Depuis 2015, les Cuistots Migrateurs permettent à des réfugiés de travailler légalement en France. C'est grâce à la cuisine que Louis a concrétisé son envie de proposer une solution pérenne à ces migrants et migrantes venus du monde entier. Aujourd'hui, Louis et son équipe veulent aller encore plus loin en créant la première école de cuisine gratuite pour les réfugiés. À l'issue de cette formation certifiante, les élèves seront en mesure de s'intégrer sur le marché de l'emploi. J'espère que cet épisode vous plaira. En cette fin d'année 2020, j'avais envie de mettre en lumière cette belle initiative sociale et solidaire. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Louis.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Eh ben très très bien, même si la période n'est pas la meilleure pour le projet des Cuistots avec le Covid. On s'accroche, on a plein de beaux projets dont on va parler, je suis sûr. Et donc ça va.
Tant mieux. Effectivement, on va parler de ton projet, des Cuistots Migrateurs qui a vu le jour il y a 5 ans maintenant. Donc ça fait un petit moment. Mais avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Oui. Alors, Louis Jacquot, j'ai 33 ans. Je viens des Vosges, dans l'est de la France. Et donc j'ai fait une école de commerce à Rouen. Et après quelques années en marketing, communication, avec un ami de la même promo, j'ai eu envie de monter un projet. J'ai eu envie de monter une entreprise sociale, parce que je trouvais que ce que j'avais fait avant était sympathique, mais n'avait pas beaucoup de sens. Et je suis arrivé avec Sébastien Cognier à monter le projet des Cuistots Migrateurs, le premier traiteur de cuisine du monde qui emploie des cuisiniers réfugiés.
Et Sébastien avait fait aussi le même constat que toi, c'est-à-dire qu'il avait exercé d'abord un autre métier, qu'il avait constaté cette perte de sens, qu'il trouvait pas vraiment d'intérêt à ce qu'il faisait.
Exactement. Alors moi j'étais sur plutôt market communication, lui plutôt finance gestion, moi plutôt dans les petites boîtes, lui plutôt dans les grosses boîtes. Et un jour on s'est dit mais ce qu'on fait, c'est très bien. Enfin on passe plein, on avait un bon boulot, gagner notre vie. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça apporte aux autres? Donc on s'est dit, si on fait un projet d'entreprise, qui était quelque chose qu'on avait envie de faire de toute façon, il fallait que ce projet d'entreprise nous apporte ce qui nous avait manqué jusqu'à présent, qui était justement ce sens, cette vocation, quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin, qu'on ait un sentiment d'être utile, On a cherché plusieurs projets, mais finalement, c'est la cuisine qui a retenu notre attention, surtout parce qu'on était gourmands, qu'on avait pu pas mal voyager dans le cadre de nos études ou pour des raisons, pour partir en vacances, quoi. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose autour de la cuisine, donc ça faisait pas un projet. Mais on a été rattrapé par l'actualité, donc c'était en septembre 2015, la crise migratoire. Le sujet de la crise migratoire est devenu un sujet quotidien dans les médias. Mais on parlait toujours des migrants comme une menace, comme des victimes, juste comme des victimes, on parlait que de statistiques. Et nous, on avait envie de montrer que derrière ce mouvement de crise migratoire, il y a des gens qui ont une culture, il y a des gens qui apportent plein de choses dans leur valise, qui apportent leur tradition, leur savoir-faire, et on s'est dit qu'on allait valoriser leurs recettes de cuisine.
Est-ce que vous vous êtes dans un premier temps rapproché d'associations aussi pour échanger avec ces migrants et ces migrantes, ou comment est-ce que ça s'est fait? C'est venu naturellement l'idée de se lancer sur un projet cuisine. Quel a été le cheminement?
On connaissait rien du tout à la problématique des réfugiés, donc on savait même pas ce que ça voulait dire vraiment réfugié, parce que c'est un terme que tout le monde emploie pour désigner plein de réalités. Donc on a commencé à essayer de comprendre ce que c'était qu'une personne qui était réfugiée. On a compris qu'il y avait des personnes qui étaient réfugiées statutaires, c'est-à-dire que c'est une convention internationale, la convention de Genève, qui reconnaît que certaines personnes ont leur vie qui est menacée dans leur pays. Et donc, on leur donne un droit d'asile qui leur permet de rester dans le pays, d'y vivre et d'y travailler. Donc, ça veut dire que les réfugiés en droit, un réfugié statutaire, peuvent être employés. Il y a d'autres réalités, comme les demandeurs d'asile, on ne peut pas les employer, mais les réfugiés, c'est possible. Donc, c'était un bon point de départ. Et ensuite, on a essayé de savoir s'il y avait des personnes qui étaient des cuisiniers, qui avait des recettes, qui avait une expérience. Donc on est allé voir effectivement France Terre d'Asile, notamment, on est allé voir Singa, on allait rencontrer des réfugiés qui nous parlent un petit peu de leur parcours, de leurs difficultés à trouver un emploi, notamment dans la restauration. Et on a eu une chance qui a été d'être invité par le CADA, donc Centre d'accueil de demandeurs d'asile de Saint-Denis, qui nous a invités en fait à une fête qui est normalement réservée aux demandeurs d'asile, une fête où ils se retrouvent et toutes les familles cuisinent des plats pour une soirée, un petit peu la soirée de Noël. Et on a été invités et on a découvert en fait un nombre de recettes complètement incroyables, des gens qui étaient des super cuisiniers, des recettes qu'on n'avait jamais vues, qu'on soupçonnait pas du tout, d'un petit peu partout dans le monde. Et on s'est dit que voilà, il y avait des recettes de dingue, que c'était super bon, qu'il y avait des gens de talent, qui n'étaient pas forcément des cuisiniers, mais qui avaient sans doute un potentiel, en tout cas, qui étaient amoureux de leur cuisine. Et on a eu la confirmation qu'on pouvait monter un projet autour de la cuisine. Alors après, ça pouvait prendre plein de formes. On aurait pu faire un resto, un food truck, etc., etc. Et la deuxième chose qui nous a bien aidé, c'est Make Sense, l'incubateur d'entreprises sociales qu'on connaissait un petit peu. Il nous a appelé un jour, il nous a dit « Écoutez les gars, dans une semaine, j'ai un événement pour 30 personnes. Ils ont privatisé Make Sense. Ils n'ont pas de traiteur, est-ce que vous voulez le faire ?» Et on n'avait pas de menu, on n'avait pas de boîte ou de projet, on n'avait pas de cuisinier, on n'avait pas de cuisine, on n'avait pas de logo, enfin on n'avait rien du tout. Et on s'est débrouillé, notamment avec le peu de contacts qu'on avait pour faire cet événement, qui était un événement de traiteur. Et donc on a cuisiné dans ma cuisine dans le 19e, chez moi, et puis c'était parti, quoi. On a fait cet événement, les gens étaient ultra enthousiastes. Et puis de fil en aiguille, bah il y a eu une deuxième commande, une troisième commande, une quatrième commande. C'est comme ça que le projet est né, autour d'un projet de traiteur, donc avec des cuisiniers employés en CDI qui partagent leur cuisine, leurs recettes traditionnelles.
Et donc lors de ce premier événement chez Make Sense, vous aviez des recettes de partout dans le monde. Quelles recettes est-ce que vous aviez choisi de mettre en avant ?
On avait, on s'est jamais dit que ce soit pour ce premier événement ou par la suite, on veut absolument mettre telle ou telle recette en avant. C'est surtout les cuisiniers qu'on a rencontrés et qui ont décidé le menu. Puisque l'idée c'est bien que chaque cuisinier apporte ses propres recettes. Donc si quelqu'un est syrien, on va lui demander de faire des recettes syriennes. Et donc on avait pour ce premier événement, on avait une personne un réfugié du Sri Lanka et un Syrien.
Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée en fait de se diriger plutôt vers le secteur des traiteurs plutôt que restaurants.
Oui, parce que ça nous permettait en fait sans investir 300 000 euros dans un resto, enfin ça coûte cher un resto à Paris, hein, sans expérience du tout dans la restauration, faut quand même le dire, de commencer en fait. On pouvait trouver une cuisine. Alors, au début on l'a fait dans ma cuisine, après on a loué des cuisines, de cuisiner entre guillemets dans notre coin, de prendre notre temps, de s'organiser, ce qui est plus facile que il y a des contraintes, mais c'est plus facile que d'être dans le jus dans un resto. Donc on pouvait aller faire nos courses, faire notre cuisine et livrer le lendemain les clients, et ça fonctionnait bien.
Et ça a duré pendant combien de temps?
Ça a duré donc dans ma cuisine ou
non, le service de traiteur seulement traiteur.
Il y a toujours eu le traiteur depuis le début, mais assez vite on a fait plein d'autres petites choses qui n'étaient pas le cœur de notre activité. On n'y mettait pas forcément toute notre énergie dedans, mais on a essayé de faire très vite d'autres choses parce que le traiteur c'est avant tout des clients qui sont des entreprises, ou en tout cas des entreprises, des institutions, des associations, enfin pas des particuliers. Et nous on avait envie d'aller plus loin et tout. On avait envie de se faire plaisir en faisant des choses un petit peu plus événementielles, street food, restauration. Et puis aussi de pouvoir parler à un public plus large, de montrer ce qu'on faisait. Et en plus, on a eu énormément de presse très vite. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous sollicitaient, qui avaient envie de goûter notre cuisine et qui n'avaient pas forcément un événement pour 25 personnes pour lesquelles il aurait fallu un service traiteur. Donc très vite on a fait le food market de Belleville, on a co-organisé la première édition du Refugee Food Festival, on a fait des brunchs le dimanche dans une péniche dans le 13e. Ensuite on a été on a repris le resto du Hasard Ludique, donc une salle de concert dans le 18e. Jusqu'à avoir maintenant notre restaurant dans le 11e. Donc voilà, il y a toujours eu, en plus de cette activité de traiteur, d'autres choses autour qui permettent voilà de toucher un public plus large, de faire découvrir ce qu'on fait au plus grand nombre et de partager un petit peu notre histoire, l'histoire de nos chefs.
Et qui vous permettent d'embaucher combien de chefs aujourd'hui ?
Alors, on est aujourd'hui au total, hein, le projet des Cuistots, c'est une trentaine de personnes et on a 13 personnes qui sont réfugiées, donc encore une fois, qui ont des papiers qui nous permettent de les embaucher, qui sont très majoritairement en cuisine. On a également deux personnes au service, une personne qui est à la plonge. C'est des gens qui n'étaient pas forcément des cuisiniers dans leur pays. Et ça a été un peu la découverte, parce que on s'est dit forcément dans tous les gens qui arrivent il y a plein de cuisiniers, c'est obligé. Et en fait il y en a pas tant que ça, ou alors peut-être que ces gens-là trouvent tout de suite un emploi dans la restauration et qu'ils ont pas besoin de nous. Mais il y a aussi plein d'autres gens qui adorent la cuisine, qui aimeraient trouver un boulot là-dedans, mais qui n'ont pas l'expérience, et nous, on a fait le pari de les accueillir et de les former. Alors, pour l'instant, dans le traiteur, c'est au quotidien, sur le tas. Mais voilà, de les former, de leur permettre de valoriser leurs recettes. Et donc, on travaille maintenant avec des personnes qui viennent de Syrie, Iran, Népal, Tchétchénie, Afghanistan, Bangladesh, Sénégal, etc. Qui travaillent en équipe et qui font leurs recettes.
Et ces personnes-là, j'imagine qu'elles ne parlaient pas tout le français. Donc, il a fallu aussi qu'elles apprennent à parler français. Ou comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Parce que j'imagine que, oui, tout le monde ne parle pas français.
Ouais, non, c'est sûr. Au tout début, assez naïvement, je me suis dit, bon, on va se débrouiller. S'ils parlent même que trois mots, c'est pas grave. Et donc, un des premiers cuistots qu'on a embauché, c'est Faek, qui est Faek Almana, qui est réfugié syrien, qui a fui la guerre dans son pays, qui est arrivé en 2015, qui est arrivé chez les cuistots au début 2016, qui parlait pas un mot de français et qui avait pas d'expérience en cuisine. Et en fait, ça a fonctionné. Aujourd'hui, Faek, il parle super bien français, il est chef de parti, donc il encadre plusieurs cuisiniers. Donc, on a réussi permettre d'apprendre le français, d'apprendre le métier. Après, en fait, plus on avance dans le projet, plus on se rend compte que, enfin, plus on grossit, plus on a de grosses commandes, plus on a besoin d'avoir des gens qui ont quand même un bagage de français et de cuisine assez important. On y reviendra, mais c'est pour ça aussi qu'on a décidé de lancer une école de cuisine. Mais aujourd'hui, au quotidien, l'équipe parle en français. C'est vraiment, ça fait partie du projet, ça fait partie de l'intégration, c'est ultra important. Et donc, forcément, voilà, dans les recrutements qu'on a fait, on a essayé de trouver des gens qui avaient, en tout cas dans les dernières années, un niveau minimum pour qu'on arrive à travailler ensemble, parce que on fait des événements, on a fait jusqu'à 1600 personnes. Donc voilà, quand on fait la cuisine pour 1600 personnes, faut travailler en équipe, et c'est important de se comprendre, évidemment.
Oui, bien sûr, on va revenir sur ce projet d'école qui, en fait, a été construit suite au constat que vous avez fait ces cinq dernières années, et c'est ce qui est assez intéressant. Avant qu'on aborde ça, j'avais envie de revenir avec toi sur l'embauche. Tu as bien précisé que c'était des embauches en CDI versus Deliveroo, Uber Eats, qui s'appuient sur un système d'ubérisation de la société et du droit du travail. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'embaucher en CDI ? J'imagine que pour vous, ce serait plus simple, finalement, d'avoir des contrats un peu moins encadrés, un peu moins lourds, administrativement parlant ?
En vrai, on s'est quand même posé la question au tout début, parce que oui, c'est pas forcément... c'est pas top d'avoir des gens en freelance. Après, on se dit peut-être qu'on va permettre d'employer beaucoup plus de personnes, peut-être. Ce sera peut-être moins contraignant pour nous, mais en même temps, on va pouvoir toucher plus de personnes. Et en même temps, en discutant avec les assos, donc ça c'était vraiment fin 2015, et en discutant avec beaucoup de réfugiés, on s'est rendu compte, c'est pas surprenant, que tout ce qu'ils nous demandaient, et c'est bien normal, c'était d'avoir un contrat, et un vrai contrat, parce que il leur fallait notamment avoir un logement, trouver un logement. Alors c'est pas des gens qui étaient à la rue, mais c'est des gens qui pouvaient être super loin, en banlieue, qui parfois partagent un appart avec quatre autres familles. Ils ont une salle de bain pour 15 personnes. Ils peuvent être mutés dans un autre logement, pas du jour au lendemain, mais presque. Donc c'est super galère pour la scolarisation des enfants, ou s'ils ont trouvé un boulot. Ça peut être très compliqué ensuite de s'y rendre. Donc, on a compris que s'ils voulaient reconstruire leur vie en France, il fallait que notamment la question du logement ça soit résolue pour eux, et ça passait par un contrat stable, une situation stable, un contrat pérenne. Donc, on s'est dit, si on le fait, il faut qu'on arrive à faire des CDI, parce que c'est ce dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que toute l'équipe est en CDI à temps plein. C'est une petite victoire, et pour nous c'est inconcevable que de pas faire ce choix d'avoir des vrais contrats.
Et puis on a constaté aussi là avec la crise du Covid la précarité en fait de ces personnes qui travaillent chez Deliveroo, Uber Eats et j'en passe.
C'est sûr. C'est galère pour tout le monde, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est un filet de sécurité qui est super important pour...
Et donc, on le disait un petit peu, on l'a évoqué, vous avez en ce moment une campagne de crowdfunding qui prendra fin demain, avec un projet que je trouve vraiment fantastique, qui est d'ouvrir une école de cuisine. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, puisque ce n'est pas une école de cuisine traditionnelle ?
Le cheminement, ça a été de se dire, le cuistot migrateur, on a grandi, on est aujourd'hui, ils sont une dizaine en cuisine, on est fiers, encore une fois, de ce qu'on a réussi à faire jusque-là, mais on a deux problèmes. Le premier, c'est que on a de plus en plus de mal à trouver des gens, des personnes réfugiées qui sont suffisamment capées en cuisine et qui parlent suffisamment bien français pour intégrer l'équipe, parce qu'elle s'est professionnalisée, voilà. Et l'autre truc, c'est que 10-13 personnes réfugiées en CDI à temps plein, c'est super, mais par rapport à l'enjeu de la migration en France et l'enjeu de l'intégration de personnes réfugiées, c'est assez peu. Et le projet des cuistots migrateurs, c'est quand même avant tout un projet social, et donc il faut qu'on arrive à avoir un impact social qui soit beaucoup plus grand. Et on s'est dit, si on n'arrive pas à embaucher des personnes qui ont un bon background en cuisine et qui parlent bien français, on va les aider à avoir ce background en cuisine et à parler français. Et donc, assez naturellement est venue l'idée d'une école de cuisine. Et c'est venu d'autant plus naturellement qu'en regardant un petit peu ce qui se faisait dans d'autres écoles de cuisine, on s'est rendu compte qu'ils ne mettaient pas le français au cœur de leur apprentissage, et que donc ça excluait les personnes réfugiées, qu'elles pouvaient difficilement intégrer les cursus d'écoles de cuisine existants parce que le niveau de français n'était pas assez important. Leur niveau de français n'était pas suffisant, pardon. Et donc on a réuni un consortium avec d'autres acteurs comme Action Emploi Réfugiés, comme TOT qui s'occupe de l'apprentissage des langues à destination des réfugiés, pour lancer cette école de cuisine à destination des réfugiés, gratuite, certifiante, c'est-à-dire que ça, l'école va leur délivrer un certificat de qualification professionnelle, un CQP, avec deux volets, un volet apprentissage du français, qui est surtout destiné, enfin, à vocation, du français à vocation professionnelle, et un cursus en cuisine, qui comprend, bien évidemment, un stage d'application. Tout ça sur environ 4 mois, avec l'idée derrière qu'elle puisse trouver un emploi dans la restauration. Ça tombe bien, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'emplois à pourvoir dans la restauration, et que les restaurateurs ont du mal, et ils le disent, à trouver des personnes qualifiées. Ce problème de recrutement dans la restauration existe depuis longtemps. Il y a beaucoup de turnover, beaucoup de difficultés à trouver des personnes qualifiées. Je m'écarte un petit peu de la question. Il y a un autre constat qu'on a fait, c'est que les personnes issues de la migration, la plupart du temps, quand elles trouvent un emploi dans la restauration, encore une fois, à cause d'un manque de maîtrise du français, vont vite être cantonnées à des tâches type plonge ou commis de cuisine, sans beaucoup de perspectives de grandir dans ce métier, d'apprendre, de monter les échelons. Et donc, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse cette école et qu'on place le français au cœur du programme pédagogique qu'on a construit.
Et comment est-ce que vous avez conçu ce programme? Sur quelle pédagogie est-ce que vous vous êtes appuyé? Est-ce que vous avez dû faire appel à des spécialistes? Puisque j'imagine que ni toi ni ton associé, vous aviez des bases sur le sujet.
Non, et puis la formation professionnelle, c'est quand même un petit casse-tête. On a réuni une équipe, en fait, donc l'équipe Association des Cuistots, qui s'est occupée de monter ce projet en essayant de comprendre tous les dispositifs de la formation professionnelle. Alors, je serais très, très mal placé pour en parler, ils en parleraient bien mieux que moi. On a très vite... on s'est tout de suite dit qu'il fallait que ça soit un diplôme qui soit reconnu. Donc, on a compris qu'en 4 mois, on pouvait dispenser, encore une fois, un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Donc, c'est relativement encadré. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc, le programme pédagogique, il coche des cases. Donc tout ça c'est pour la partie cuisine, on a essayé de le faire un petit peu plus à notre sauce, c'est-à-dire que on essaye d'inclure des recettes de cuisine du monde pour que ça fasse écho au patrimoine des étudiants, qui se rendent compte que des techniques qu'ils vont apprendre sont utilisables avec leurs recettes. Donc il y a un focus quand même sur la cuisine française, puisque c'est un peu la grille de lecture du CQP, et puis parce que c'est important ensuite pour l'insertion professionnelle, mais c'est aussi important pour montrer que les techniques qu'on va leur apprendre sont valables pour n'importe quelle cuisine et vont aussi leur permettre de progresser sur leurs propres recettes. Et puis pour la partie français, apprentissage du français, on s'est entouré de, comme je disais, de plusieurs acteurs, notamment TOT et IMAD, qui est chez nous maintenant, a travaillé chez TOT, a construit le programme pédagogique de TOT. Donc, encore une fois, qui est une association qui a vocation à aider des personnes réfugiées à apprendre le français. Donc on a su faire un programme sur mesure pour le français, pour la cuisine, qui rentrent quand même dans un CQP et donc qui leur permet quand même d'avoir un diplôme. C'est ça qui est important.
D'avoir un diplôme et en même temps de valoriser le parcours de chacun. J'imagine aussi de leur redonner confiance en eux.
Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on a placé aussi au cœur de l'apprentissage. Il y a c'est pas le cœur de leur cursus, mais il y a un certain nombre d'heures qui est réservé des sorties en groupe pour aller un peu fédérer l'équipe. On va essayer d'avoir des intervenants, notamment des restaurateurs, pour créer du lien, créer des échanges. On va demander à des bénévoles s'ils veulent parrainer un étudiant pour les accompagner sur toute la durée du cursus et les aider sur toutes les tâches administratives qui peuvent être liées à leur scolarité. Et on va avoir quelqu'un qui s'appelle Mélanie Gambert, qui est avec nous depuis quelques années maintenant, qui va vraiment suivre chaque étudiant de la phase de recrutement à la phase d'apprentissage jusqu'à la sortie. Et on va être particulièrement vigilant à l'après-cursus, puisqu'il ne suffit pas de former quelqu'un, mais il faut s'assurer qu'il arrive à trouver un emploi. Encore une fois, il y a des emplois, mais il va être important de garder du lien pour être sûr que les personnes ne font pas face à de nouvelles difficultés une fois qu'elles sont sur le marché du travail. Et ça, c'est un enjeu qui est vachement important et qu'on garde vraiment en tête.
Et donc, grâce à cette campagne Ulule, quelle qu'en soit l'issue, ça aura été un succès, puisque vous avez dépassé les 88 000 euros. On espère que vous atteindrez très bientôt les 100 000 euros. Combien est-ce que d'étudiants vous allez pouvoir former avec cet argent? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que l'école va s'intégrer à votre restaurant ou ce sera dans un autre lieu? Où est-ce que vous en êtes là de ce projet-là?
Alors, très concrètement, on a réussi à réunir plein d'acteurs qui nous ont aidés. On a réussi à construire un programme pédagogique. On a trouvé un local dans Paris qui va nous permettre de dispenser la formation. Et on a aujourd'hui fait la rentrée de la promo pilote, donc avec une dizaine d'étudiants. Qui va nous permettre de vraiment tester notre programme pédagogique avec eux et ensuite en 2021 de vraiment faire un lancement encore un petit peu plus officiel avec l'idée donc de d'avoir plusieurs dizaines de d'étudiants l'année prochaine. Donc en gros une scolarité hein, ça coûte 10 000 euros, donc avec 80 000 on peut accueillir à peu près 80 étudiants l'année prochaine, ce qui sera déjà une belle victoire. Ces 80 000 euros, enfin, ou ces 10 000 euros par étudiant, c'est évidemment, enfin, c'est tout ce qui est rémunération des formateurs. Il y a tout ce qui est matériel de cuisine, les tenues, qui normalement sont plutôt à la charge des étudiants dans les écoles de cuisine entre guillemets classiques. Nous, on va leur fournir. Ça a été toute la partie création d'un contenu pédagogique qui est vraiment spécifique. Et puis ensuite, tout ce qui va permettre de faire tourner l'école, avoir des ingrédients pour faire à manger, des matières premières, etc., etc. On a un local partenaire dans Paris et l'idée à terme, ça peut prendre un petit peu de temps, mais on est dessus, c'est d'avoir notre propre local, notre propre école, j'espère à Montreuil, et d'accueillir à terme plutôt 200 élèves par an. Et de développer de nouveaux cursus, parce que des emplois dans la restauration, encore une fois, il y en a des dizaines de milliers, mais il y a des emplois en cuisine, il y a des emplois en service, en sommellerie, il y a des emplois, si on sort un tout petit peu de la restauration, en boulangerie, par exemple, et on pense que ce serait génial d'arriver à avoir plusieurs cursus. Et peut-être, aussi un cursus qui pourrait être plus dédié à la restauration collective, parce que c'est un secteur qui recrute, et puis parce que c'est un secteur qui a des horaires un peu moins contraignants que la restauration traditionnelle, et ça peut être intéressant, notamment pour des femmes qui c'est souvent le cas quand même, s'occupent des enfants, et donc pour lesquelles ça va être important d'avoir des horaires qui matchent un peu mieux avec les horaires des enfants.
Et comment est-ce que à terme vous parviendrez à maintenir cette gratuité pour les étudiants ?
Eh bien, c'est un vrai sujet. On est en train de tisser des liens avec un certain nombre de fondations. Après, il y a tout le système du financement de la formation professionnelle, notamment avec Pôle Emploi, donc qui assure une partie du financement. Il y a, comme toute association, il y a un gros travail. Ça, c'est le travail d'Alban chez nous, d'aller chercher des financements auprès de fondations, notamment. Il y a le grand public. Et après, on peut imaginer, ça, on le fera quand on aura notre local, c'est d'avoir des activités qui permettent de faire rentrer un petit peu d'argent. Alors, on peut imaginer faire des événements avec les élèves ou faire des cours de cuisine aussi. à destination des particuliers comme des professionnels. Voilà, il y a plein de pistes. Il n'y a pas une piste magique. Il faudra faire plein de choses. Mais on a une super équipe pour ça et je suis pas inquiet sur le fait qu'on arrive à financer les cursus.
Pour terminer cet enregistrement, Basilic, c'est un podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Donc forcément, j'avais aussi envie de savoir si au sein de votre restaurant Les Cuistots Migrateurs, vous aviez intégré cette démarche un peu plus éco-responsable qu'on voit naître et pointer le bout de son nez un petit peu partout dans le secteur de la restauration. Donc par exemple, s'approvisionner de manière plus locale, aussi faire attention à la saisonnalité des produits. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant, quelque chose que vous prenez en compte ou pas encore?
Partiellement, je vais être très honnête. Bon, nous, on est attachés à la bonne bouffe, donc aux bons produits. Et donc, évidemment, travailler avec des super produits, avec des produits locaux, avec des produits de saison, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Le chef de cuisine, il s'appelle Andy, il bossait dans des restos gastro à Paris, enfin voilà, amoureux des bons produits. Donc, on a commencé à le faire, on le fait notamment avec les épices Shira, qui sont des épices sauvages, de petits producteurs et bio quasiment la plupart du temps. On a de la viande française, on a des œufs plein air, mais on n'a pas une démarche encore 100% bio ou locale, parce que c'est un vrai boulot qu'on n'a jamais vraiment réussi à mener jusqu'à présent, parce que c'est difficile quand on fait à manger pour des centaines de personnes de trouver des approvisionnements qui peuvent être parfois pour des besoins à la dernière minute, pour des centaines de personnes, et parce que c'est quand même un peu plus difficile d'être de saison et local à 100% pour de la cuisine du monde, qui encore une fois est une cuisine du monde que nous on veut authentique et qui respecte les recettes de nos chefs, donc c'est difficile de, enfin on n'a pas envie de trop trahir les recettes. Donc on doit encore progresser, on va le faire parce que on veut, enfin c'est quelque chose qu'on a envie de faire, c'est quelque chose que les clients attendent. On travaille aussi sur d'autres aspects qui sont importants. Là, on va passer tous nos packagings en zéro plastique. C'était presque le cas, mais ça aussi, c'est facile à faire sur la consommation plus individuelle type Deliveroo. Mais quand il y a 200 personnes à nourrir, c'est plus compliqué de trouver des contenants adaptés qui sont recyclables ou recyclés. Mais on va y arriver et on devrait sortir ça en janvier. Et au quotidien, que ça soit dans notre labo à Montreuil ou sur les événements, on travaille notamment avec Molino pour le recyclage des déchets organiques, Lemon Tree pour le tri. Il y a encore d'autres sujets sur lesquels on essaie de s'entourer de bons partenaires, comme la livraison. On travaille avec Olvo, qui est une coopérative de cyclotourisme. Donc voilà, on essaye de faire le max. Il y a encore des progrès à faire, surtout sur les ingrédients. Et mais c'est en bonne voie. En tout cas, on y vient progressivement. Donc on va y arriver.
Merci pour cette réponse en toute transparence. Et puis, je te rassure, il n'y a pas d'écolo parfait. C'est ce qu'on montre à chaque fois chez Basilic. Et c'est le but aussi de ces épisodes.
C'est important de dire que c'est pas forcément facile. C'est pas juste je prends du bio finalement. C'est faut trouver tous les bons ingrédients, faut trouver les fournisseurs, faut trouver les gens qui sont réactifs, qui sont fiables, qui peuvent faire de la quantité. Faut arriver à faire comprendre aux clients que ça a un coût supplémentaire, ce qui est pas non plus un aspect qui est négligeable. Donc voilà, c'est une démarche assez globale et encore une fois, c'est une démarche qui demande du temps et
ça viendra. Merci beaucoup Louis, c'était très intéressant. Je suis ravie d'avoir enregistré cet épisode. Je laisserai de toute façon dans la barre de description tous les liens utiles pour les auditeurs et les auditrices pour qu'ils puissent déjà se rendre au restaurant lorsque ce sera à nouveau possible. Et puis se renseigner sur votre école de cuisine. Est-ce qu'il sera toujours possible de faire des dons même après la campagne Ulule ?
Oui, tout à fait. Encore une fois, comme toute association, on n'a pas créé de page encore école sur le site lescuistotsmigrateurs.com, mais ça va venir et effectivement, tous les dons sont les bienvenus et je remercie d'avance tous ceux qui nous aideront.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir les cuistots migrateurs et pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, effectuer un don auprès de leur association. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches, avec vos collègues, avec vos amis. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast à de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs. Et c'est pour vous la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez me soutenir, laisser des commentaires et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Cela permet de référencer le podcast et de le faire émerger sur cette très grande plateforme. Vous pouvez aussi partager cet épisode ou le podcast en général sur vos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de me taguer @basilicpodcast. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui sera, encore une fois, consacré à une association. Prenez soin de vous, à très bientôt.